Bonjour à tous, à toutes. Nous allons commencer ce message dans la prière, le remettre entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle nous enseigne, elle a des choses à nous dire jour après jour, et tout particulièrement ce dimanche où nous pouvons l'exposer, l'expliquer, et nous croyons que tu as une grâce toute particulière à nous apporter. Et dimanche, nous sommes réunis pour t'écouter. Je prie pour que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous réconforte, qu'elle nous permette de mieux comprendre qui nous sommes et aussi qui tu es, quel est notre appel, que nous en sortions fortifiés et prêts à te servir d'un élan nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui sommes-nous et quel est notre but ? Sans même que nous nous en rendions compte, nous nous définissons sans cesse, en fonction de notre âge, de notre sexe, de nos origines, de notre métier, de nos études, de notre expérience, de notre lieu de vie, nos loisirs, etc. Tous ces éléments-là servent à nous définir en tant que personne, construisent notre identité. Mais en ce qui concerne le chrétien, finalement, qui est-il ? Quelle est son identité ? À quoi sert-il ? Quel est son but ? Par extension, qui sommes-nous en tant qu'Église de Jésus-Christ ? Quel est notre but collectif ? Peut-être vous avez déjà posé ce genre de questions, peut-être pas, si c'est pas le cas. Bien, nous allons nous les poser ce matin. Et je pense que c'est important de s'y arrêter parce que connaître notre identité chrétienne et savoir quel est notre objectif, et en quelque sorte quelque chose qui pose la fondation de qui nous sommes et qui nous permet d'être fermes sur nos bases, de ne pas nous tromper de direction aussi dans les choix que nous faisons. La Bible parle beaucoup de notre identité chrétienne. J'ai choisi ce matin en particulier de nous arrêter sur un passage que l'on trouve dans l'épître à Pierre, chapitre 2. Le verset 9. Pour des questions de contexte, nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, mais le sujet de notre étude sera vraiment centré sur ce verset 9 de l'épître de Pierre, premier épître, chapitre 2. Je lis dans la version français courant, une fois n'est pas coutume. Commence à partir du verset 4, si tu veux bien. Merci. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce que dit l'Écriture. J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour nous, les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces gens, on parle des incroyants, ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais aujourd'hui, maintenant, elle vous a été accordée. Le plan sera simple, composé de deux parties. La première, qui sera la plus longue, répondra à la question « Qui sommes-nous ?» Et nous suivrons la réponse du texte, il n'y a pas de suspense. Peut-être vous l'avez vu. Ce texte nous parle de notre identité en tant que race choisie, en tant que prêtre du roi, en tant que nation sainte et peuple qui appartient à Dieu. Alors je vais rassembler les deux dernières pour des questions de temps, nation sainte et un peuple qui appartient à Dieu. Et puis la deuxième partie, beaucoup plus courte, répondra à la question « Quel est notre but ?» Et je vous donne déjà la réponse, proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ok, on y va. Quelques mots de contexte pour commencer. Quand l'apôtre Pierre écrit cette lettre, il s'adresse aux élus qui vivent en hôtes de passage dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. C'est ce que l'on voit au chapitre 1, verset 1. Autant de régions qui correspondaient à l'Empire romain de l'époque et qui aujourd'hui sont situées dans la Turquie actuelle. Ces églises sont très vraisemblablement composées de juifs convertis et de païens qui ont embrassé également la foi chrétienne. Au début du chapitre 2 que nous avons lu, Pierre rappelle que Christ, qui est appelé la pierre d'angle, a été rejeté par les hommes qui ne croient pas en lui. Bien que Jésus ait été choisi et précieux aux yeux de Dieu, sur cette pierre, beaucoup de gens tombent. Ils ne croient pas, ils trébuchent. Mais l'Église, elle, trouve sa fondation sur cette pierre d'angle. Nous sommes donc des pierres vivantes. C'est donc une image, vous l'aurez compris, qui sommes posées sur cette pierre principale, cette pierre de fondation. Et donc c'est dans ce contexte que Pierre en arrive, l'apôtre, au verset 9 que je relis. « Vous êtes la race choisie. » Les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Alors Pierre, on l'a dit, s'adresse à des chrétiens. Mais chose intéressante, il cite des passages de l'Ancien Testament. Quasiment tous ces passages du verset 4 au verset 10 sont des citations, des reprises de l'Ancien Testament. Et deux en particulier, vous les trouverez si vous avez envie de chercher plus tard, dans Exode 19, versets 4 à 6, et Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. Donc ce sont deux textes où Dieu s'adresse aux Israélites. Dans le premier cas, c'est dans le mont Sinaï, avant de donner les 10 commandements au peuple juif. Et dans le deuxième cas, donc dans Deutéronome chapitre 16, 7, versets 6 à 8, c'est avant que le peuple rentre dans le pays promis. Dieu donne des instructions. Alors pourquoi Pierre a choisi d'utiliser deux citations de l'Ancien Testament ? Il aurait pu tout à fait donner une parole nouvelle qui n'est pas issue de l'Ancienne Alliance. Pourquoi a-t-il utilisé ces versets qui étaient destinés exclusivement, particulièrement aux Hébreux, pour décrire la situation des chrétiens qui vivent dans les églises? Très probablement, il veut tracer une filiation spirituelle entre le peuple juif qui était choisi et aimé de Dieu et eux, donc nous, chrétiens de tous horizons. En quelque sorte, il dit « voilà votre héritage spirituel ». Et ces paroles qui étaient destinées au peuple juif, maintenant aussi, elles sont à vous. Elles vous appartiennent. Et c'est une révolution pour l'époque, puisque que des gens de tous horizons, des païens qui ne connaissaient rien au contexte juif, se disent « Ah, je suis une race choisie, je suis prêtre du roi, je suis une nation sainte. Toutes choses qui avant étaient des promesses exclusives du peuple juif, aujourd'hui, moi aussi, j'en suis bénéficiaire. » Alors, nous allons du coup regarder ces parties l'une après l'autre. Qui sommes-nous donc, premièrement, une race choisie ? Le mot race aujourd'hui est un peu politiquement incorrect. Dans le contexte de l'époque, c'est un mot qui passait tout à fait couramment et qui désigne, qui a un sens de ethnie, pourrait-on dire. Une race choisie ou une race élue, en fonction des traductions, c'est un peu le commencement de l'identité chrétienne. En effet, tout comme les juifs avaient été choisis par Dieu, pour former un peuple à part des autres nations. Hein, Dieu le dit très clairement. Je vous ai choisi, non pas parce que vous êtes un peuple meilleur que les autres, au contraire, parce que vous êtes les plus petits, les plus faibles, mais je vous ai choisi parce que je vous aime. Et Dieu avait donc mis ce peuple à part des autres nations, et comme il l'a fait pour les Juifs, il le fait aussi pour nous si nous sommes croyants. Dieu décide souverainement d'arracher des griffes de Satan des millions d'hommes et de femmes qui étaient normalement destinés à l'enfer. C'était là notre destinée normale, puisque nous étions pécheurs, opposants, adversaires de Dieu. Le choix de Dieu ne s'opère pas en fonction de nos mérites, tout comme pour les Juifs, il ne nous a pas choisis parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Il ne nous choisit pas à cause de nos prétendues facultés à croire par rapport à d'autres qui n'auraient pas cette faculté-là. Il ne nous choisit pas parce que nous faisons des œuvres meilleures que les autres. Il nous choisit parce qu'il nous aime. Et pour des raisons qu'il ne nous appartient pas de connaître. Pourquoi moi ? Pourquoi vous ? Et pas nous ? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons que accepter avec humilité ce choix souverain de Dieu. La responsabilité de l'homme, la Bible est tout aussi claire dessus, est de saisir par la foi l'offre du salut qui est proposée à tous. Même si la parole nous dit que la foi, dans Éphésiens 2:8, est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Alors, finalement, qu'est-ce que ça change concrètement d'être une race choisie ? D'abord, cela redonne l'honneur suprême à Dieu, parce qu'il est à l'initiative de cette élection. Cette situation met le chrétien dans une position d'humilité, de bénéficiaire imméritant, et donc aussi de profonde gratitude. Si vous savez que vous ne méritiez rien, que vous étiez destiné à la mort éternelle, et que Dieu, dans son choix souverain, vous a arraché de cette situation pour vous faire passer dans la lumière, n'est-ce pas un sujet profond de reconnaissance, de gratitude ? Il n'était pas obligé de nous sauver, c'est ça la définition de la grâce. Je crois qu'une église qui comprend et accepte cette grande vérité biblique est une assemblée qui est caractérisée par la gratitude et par l'humilité. Deuxièmement, être une race élue ou choisie, ça nous donne une ferme assurance. Si c'est Dieu qui nous a choisis, plutôt que nous qui l'avons élu, alors nous pouvons être sûrs que notre vie présente et éternelle est entre de bonnes mains. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos infidélités, nos doutes, il ne nous reniera pas parce qu'il nous a choisis, parce qu'il a imprimé son Saint-Esprit dans notre cœur comme une marque indélébile que nous sommes sa propriété. Et je voudrais vous donner une image pour illustrer ça, tirée de notre vie quotidienne. La plupart d'entre vous savent que nous avons eu un petit bébé, il est là dans la poussette, il nous écoute, ou pas d'ailleurs. Le petit Pascal n'aime pas rester seul dans son berceau, comme beaucoup de bébés de son âge. Et régulièrement, il lance des cris d'alerte, comme ça. En père attentif, je prends l'initiative de le tirer de son berceau pour le prendre dans mes bras. Et là, il se calme. Et parfois, il s'accroche, comme ça, à mon pull avec ses petites mains. Comme s'il voulait s'assurer de ne pas tomber. C'est vrai que papa, il est grand. On n'est jamais à l'abri d'une chute, donc il vaut mieux être prudent. Et c'est mignon, mais honnêtement, si les bras m'ont tombé pour une raison ou une autre, est-ce que vous pensez que sa petite main de bébé de 2 mois aurait suffisamment de force pour lui éviter la chute ? Certainement non. Et il en va de même pour nous. Si nous avons choisi Dieu, alors il y a toujours la crainte de ne pas avoir assez de force pour tenir par la foi, en particulier dans les moments d'épreuve et de tentation. Mais si c'est lui qui nous a choisis, alors il nous maintient fermement dans son amour et il nous gardera jusqu'au bout, parce qu'il est fidèle et puissant. Comprendre et saisir cela par la foi, c'est véritablement une immense source de repos pour nos âmes, et ça nous donne une assurance pour aller plus loin. Nous sommes donc une race choisie, mais aussi des prêtres du roi. Certaines versions, les plus anciennes notamment, utilisent l'expression de sacerdoce royal. C'est un petit peu patois de Canaan, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi cette version de français courant. Prêtre du roi, qui est un peu plus simple à comprendre, mais quand même. À l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres étaient chargés d'assurer un rôle d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Concrètement, dans leur vie de prêtre quotidienne, ils enseignaient, c'était une part importante de leur rôle, mais ils étaient aussi chargés d'accomplir les sacrifices pour le peuple en tant qu'intermédiaire afin que ces sacrifices puissent être agréés par Dieu. Ils étaient donc intermédiaires, mais dans le contexte de la Nouvelle Alliance, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je vous avoue que ça a été un peu une source d'interrogation pour moi en préparant ce message. Prêtre du roi, sacerdoce royal, qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Alors, on va creuser un peu le sujet, et en fait la parole nous dit des choses sur le genre de prêtre que nous sommes. Je vous cite quelques passages qui en parlent spécifiquement. En tant que prêtre, nous offrons des sacrifices, n'est-ce pas? C'est le rôle premier d'un prêtre. Nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 1, par exemple, « En tant que prêtre, nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaît à Dieu. » En d'autres termes, nous sommes appelés à tout considérer dans notre vie comme une offrande qui plaît à Dieu. Nos pensées, nos actes, notre temps, notre énergie sont un sacrifice vivant, constant devant Dieu. Nous ne sommes plus appelés à égorger un mouton comme sacrifice, mais à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Nous, prêtres, nous offrons à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ce que nous lisons dans Hébreux 13, verset 15, et ce que nous venons de faire à l'instant par nos louanges, nous avons fait un sacrifice. Nous, prêtres, nous offrons des œuvres bonnes et de l'argent qui sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Nous lisons ça dans Hébreux 13, verset 16. En Romains 15, 16, Paul considérait qu'il accomplissait la tâche d'un prêtre en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs. En d'autres termes, à chaque fois que nous partageons l'évangile, à chaque fois que nous prions pour le salut de personnes qui ne connaissent pas Dieu, nous accomplissons notre rôle de prêtre. Nous sommes intermédiaires, nous sommes médiateurs, intercesseurs, conduisant cette personne jusqu'à Christ. Bien sûr, nous n'avons pas un rôle d'intermédiaire dans le sens que entre la personne et Dieu, nous sommes une étape nécessaire. Comprenez-moi bien ce que je veux dire de médiateur, d'intermédiaire, dans le sens où nous portons la bonne nouvelle, nous expliquons la bonne nouvelle, nous présentons l'évangile de Jésus-Christ aux personnes qui ne la connaissent pas. Et dans ce sens-là, nous sommes intermédiaires et prêtres de Dieu. Et puis dernièrement, en tant que prêtre, nous avons un accès illimité à Jésus-Christ. Le prêtre était, et en particulier le grand prêtre, une fois par an, avait ce privilège, le jour du grand pardon, d'aller dans le lieu très saint auprès de Dieu. C'était un moment extrêmement solennel, il devait se purifier avant, on lui mettait une corde autour de la taille, parce que si jamais il mourait en la présence du Dieu saint, au moins on pouvait le récupérer sans qu'il y ait un deuxième qui soit obligé d'y aller et de mourir à son tour. On ne s'approchait pas de Dieu comme on voulait à l'époque. Mais aujourd'hui, en tant que prêtre, nous avons reçu ce privilège de nous approcher de Dieu sans crainte, à tout moment et en tout lieu. Alors, évidemment, nos sacrifices sont entachés d'imperfections, de péchés. Nul ne saurait dire que toutes ces œuvres bonnes sont faites avec une pureté de cœur parfaite. Et Dieu le sait. Rien ne pourrait satisfaire le grand roi saint par excellence. Mais accompli au travers de Jésus-Christ, qui est notre grand prêtre par excellence, ses œuvres sont agréées par Dieu. Et c'est ça qui est beau aussi. Nos œuvres sont agréées par Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes donc une race choisie, nous sommes des prêtres du roi, nous sommes une nation sainte et un peuple qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'une nation sainte? Par définition, est saint ce qui appartient à Dieu, ce qui est consacré, mis à part pour le service de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait des ustensiles qui étaient consacrés pour un usage exclusif dans le temple. Un couteau qui servait à égorger un animal pour les sacrifices ne pouvait pas être utilisé par le prêtre pour aller couper son steak le soir en rentrant chez lui. C'était pas possible. Ce couteau avait un usage exclusif pour l'usage du culte. Il était consacré et donc saint, même si évidemment le couteau n'avait en soi aucune vertu morale. Simplement pour nous faire comprendre que voilà, Dieu nous a mis à part, si nous sommes chrétiens, pour être son peuple particulier. Et donc la sainteté va de pair avec le fait d'être mis à part par Dieu. Il y a quelque chose qui va ensemble. Puisque nous appartenons à Dieu qui est saint, nous sommes différents, foncièrement différents. Et cette différence doit se voir entre le peuple authentique et une personne non chrétienne. Réfléchissons à cela. Si nous appartenons à Dieu en tant que nation sainte, nous sommes normalement attirés par la vertu, par la pureté, par la vérité, par l'espérance de la vie éternelle, par l'intimité de la présence divine, tandis que le péché sous toutes ses formes nous repousse, nous dégoûte. Ultimement, ce que nous aimons, le monde le déteste. Et ce que nous détestons, le monde le hait. C'est ce que Jésus dit. Pardon. Ce que nous aimons, le monde le déteste. Et ce que nous détestons, le monde le hait. Pardon. L'aime. Je vais y arriver. Vous suivez, c'est bien. Cette différence, donc, considérable. Et si nous réfléchissons avant notre conversion, on voit bien qu'avant notre manière de vivre, nos aspirations, nos choix, ce qu'on aimait, quand on est venu à Christ, ça a changé. On n'a plus les mêmes envies, plus les mêmes objectifs. Et ça, c'est rendu possible par le Saint-Esprit qui est répandu dans notre cœur et qui infuse, qui diffuse cette volonté divine en nous qui donne envie à notre cœur de suivre Jésus-Christ, de lui obéir. Même si nous sommes d'accord, il y a toujours tentation, il y a toujours lutte, il y a toujours combat entre les désirs du Saint-Esprit et les désirs de nos désirs charnels. Il y aura toujours cette bataille jusqu'à la fin, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. Mais ultimement, nous sommes déjà une nation sainte qui appartient à Dieu. Nous sommes différents. Et si nous ne vivons pas selon notre statut de nation mise à part, notre statut de nation sainte, alors nous foulons des pieds la sainteté même de Dieu. Nous ne reflétons plus cette sainteté divine. Nous serions comme un aigle qui passerait ses journées à patauger dans la boue, alors que sa nature le destine normalement à planer majestueusement au-dessus de la cime des montagnes. C'est ça notre destinée de peuple saint. En tant qu'Église, nous pouvons vivre cette sainteté en ne tolérant pas le péché au milieu de nous, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, en s'examinant soi-même. Toute démarche commence par soi. S'examiner soi-même, confessant les péchés que nous révèle notre conscience et le Saint-Esprit. Deuxièmement, en reprenant avec douceur, j'insiste sur la douceur, notre frère ou notre sœur, si nous voyons qu'il pêche et qu'il ne marche pas droit selon l'Évangile. Et c'est une vraie preuve d'amour que de faire ça. C'est pas simple d'aller voir son frère ou sa sœur et lui dire « Écoute, je crois que tu es en train de marcher sur une mauvaise voie. » C'est une preuve d'amour de faire ça. Et nous pouvons tous être concernés à un moment ou à un autre, à la fois être des gens qui reprennent notre frère et sœur, ou être des gens qui sommes repris. Pensez que c'est même arrivé à l'apôtre Pierre, qui s'est fait reprendre par l'apôtre Paul, parce qu'il ne marchait pas droit selon l'Évangile. Si c'est arrivé à Pierre, ça peut nous arriver. Enfin, troisièmement, le conseil a un rôle tout particulier à jouer dans la sainteté de notre Église en enseignant ce qui est conforme à la Bible, en la protégeant aussi des faux enseignements et du péché qui pourrait s'infiltrer dans notre communauté. Vraiment, que Dieu nous vienne en aide pour rester une nation sainte, parce que c'est un combat de tous les jours, même si c'est déjà acquis, dans un sens. Notre sainteté est liée à cette glorieuse réalité d'être un peuple racheté pour la possession de Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous sommes mis à part par lui et pour lui. Mais nous lui appartenons parce que nous avons été rachetés. Certaines versions traduisent d'ailleurs ce texte par le verbe racheter, un peuple racheté par Dieu. Racheté parce qu'à la croix, Jésus a payé la rançon de nos péchés. C'est à ce prix-là que nous appartenons à Dieu. Nous sommes à lui, il est à nous. Satan n'a plus aucun droit sur nous. La mort a été vaincue. Nous mourrons un jour, mais nous ne mourrons pas. Si nous sommes chrétiens, nous serons dans la présence de Dieu. Nos corps charnels mourront, mais notre âme sera pour toujours avec Dieu. Et nous revêtrons un jour un corps nouveau, sain et incorruptible. Vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous l'aurez noté, race, nation, peuple, ou encore pierre vivante, au verset 4 et 5, ça ne vous aura pas échappé, tous ces qualificatifs expriment une dimension communautaire, collective de la foi chrétienne. C'était évident dans le contexte où ces paroles étaient prononcées à l'origine pour le peuple hébreu. Bien sûr, on avait une nation ethniquement homogène, hébreu, hébraïque, qui habitait dans un même territoire, qui formait un peuple. C'était simple. Mais dans le contexte de la Nouvelle Alliance, c'est évidemment un peu plus compliqué. Nous sommes d'origine très différente, ethniquement différents aussi. Nous n'habitons pas tous au même endroit. Et c'est du coup peut-être plus compliqué de saisir cette dimension collective, communautaire de la foi chrétienne. Mais il y a aussi probablement une autre raison plus profonde, plus compliquée. C'est le fait que nous vivons dans une culture qui est fondamentalement, profondément individualiste. Et je n'échappe pas à cette culture dans laquelle nous baignons tous depuis notre naissance. Du coup, nous avons tendance à regarder la Bible avec un regard individualiste. Moi, ma conversion, mon choix, ma relation personnelle avec Dieu, etc. Une tonalité individualiste qui se retrouve aussi, d'ailleurs, malheureusement, assez régulièrement dans nos cantiques modernes, où le « moi », avec un grand M, l'expérience personnelle, l'émotion de mon cœur, toutes ces choses-là sont exaltées au dépens de la personne de Dieu et de la dimension collective de la foi. Le problème et le paradoxe, c'est que plus nous nous regardons le nombril, et moins nous sommes satisfaits. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés pour être des adorateurs de Dieu et pour servir notre prochain. C'est notre destinée. Et si nous manquons ce but, forcément, il ne peut que découler un ego facilement blessé par quelques remarques, des critiques qui fusent sur les uns et les autres, la frustration qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à moi, à mes problèmes personnels, etc. Mes amis, gardons bien cette pensée à l'esprit. Notre identité chrétienne est fondamentalement collective. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes une ethnie, une race. Bien sûr, la dimension individuelle, elle a toute sa place dans la foi chrétienne. Évidemment, la conversion est d'abord un acte individuel, prière avec Dieu. Évidemment, il ne s'agit pas d'effacer toutes ces choses qui sont aussi importantes. Mais la marche chrétienne, elle est tout sauf une marche individuelle, solitaire. Si tu es chrétien, tu es élu, mais membre d'une race. Tu es prêtre du grand roi, mais dans un temple spirituel qui est là pour le servir. Tu appartiens à Dieu, mais au milieu d'un membre. Tu es membre de son peuple, pardon. Tu appartiens à Dieu, mais tu es membre de son peuple. Tu es une pierre vivante, et tu restes posé toute seule dans ton coin dans un champ. Non. Ta raison d'être en tant que pierre, c'est de soutenir d'autres pierres qui sont au-dessus de toi, au-dessous de toi, à droite et à gauche. Et d'être toi-même soutenu par cet ensemble collectif. Posons-nous quelques questions à ce sujet-là. Est-ce que nous considérons que la vie chrétienne est uniquement une marche solitaire ou bien une aventure collective ? Est-il possible que nous ayons été contaminés à différents degrés par cet esprit du monde qui consiste à croire que je me suffis à moi-même et que je pourrais me contenter d'une foi individuelle satisfaisante ? quand je regarde mon frère, ma sœur, est-ce que j'ai conscience qu'il ou elle fait aussi partie comme moi d'une race choisie de Dieu, qu'il ou elle est aussi prêtre, prêtresse du grand roi, qu'il fait aussi partie du peuple des rachetés? Oserons-nous voir notre frère et notre sœur comme Dieu nous voit? C'est un défi, n'est-ce pas? Quelle pierre sommes-nous? Quelle est notre place dans cet édifice? La bonne nouvelle, c'est que le mur n'est jamais clos. L'édifice n'est jamais complété. Il y a toujours de la place pour des nouvelles pierres. Des personnes âgées, des pierres âgées, pourraient prier, conseiller les plus jeunes. Des pierres jeunes pourraient faire profiter l'édifice de leur dynamisme. Des pierres célibataires ou retraitées pourraient utiliser leur temps libre pour aider d'autres pierres, pour visiter, aider des personnes en difficulté ou autres. Des pierres aisées pourraient contribuer par leurs moyens à l'édification de l'édifice. Des pierres nouvellement converties pourraient être de merveilleux vecteurs d'évangélisation, etc. Quelle pierre es-tu? Quelle pierre veux-tu être? Et si tu n'es pas sûr de pouvoir répondre à cette question, aucun problème. Le conseil se tient à ta disposition pour en discuter. Dans la prière et avec le conseil de l'Esprit-Saint. Peut-être es-tu une pierre blessée par une expérience douloureuse dans l'Église. Et il arrive que, malheureusement, parfois le choc entre deux pierres crée des entailles profonde. Peut-être à un moment donné de ta vie chrétienne, tu aurais aimé avoir un soutien qui n'est jamais arrivé. Sans vouloir se dégager de toute responsabilité collective, il peut être utile dans ces circonstances de se rappeler que si les pierres autour de nous sont imparfaites, nous sommes posés sur une pierre parfaite. Jésus-Christ. Cette pierre de fondation ne défaille jamais. On peut toujours compter sur elle. Les hommes te décevront à un moment ou à un autre, y compris tes frères et sœurs dans l'Église. Mais Christ, jamais. Il veut te rétablir, il veut t'inviter à repartir. Va à nouveau au service de tes frères et sœurs, même si tu es une pierre blessée. C'est la volonté de Jésus-Christ, c'est la volonté de notre Pierre. Et c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous avons pu entrevoir au travers de ces versets notre identité chrétienne. Mais quel est notre but? C'est la dernière partie de ce message et rassurez-vous, j'irai beaucoup plus vite sur cette partie. Non pas que ce soit moins important, mais tout simplement parce que le temps nous manque. Notre but. Dieu nous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que nous proclamions, vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Notre but est simple. Proclamer. Voilà, c'est fini. Non, la version Summer, elle dit célébrer bien haut. J'aime bien cette expression. Proclamer, célébrer bien haut, il y a cette idée que ça doit se voir, ça doit s'entendre, c'est pas un truc qu'on garde caché là. On est appelé à témoigner, à parler dehors, à parler dedans, à faire connaître Dieu finalement, c'est ça. On proclame quoi? Parce que c'est bien de proclamer, mais c'est quoi qu'on proclame? Est-ce qu'on proclame l'arrivée d'un nouveau yaourt? Non, on proclame une réalité glorieuse, on proclame les vertus, les bontés, les œuvres magnifiques de Dieu, parce qu'il nous a puissamment arrachés des ténèbres pour nous faire passer dans son royaume de lumière. Les ténèbres, ce sont les œuvres mauvaises, ce sont le péché, c'est une puissance d'aveuglement. Ultimement, c'est Satan qui nous retient prisonniers. Et la lumière, de son côté, évoque la liberté, la vérité, la vie, l'amour, et puis aussi, d'une certaine façon, la gloire éclatante de Dieu qui est environnée de lumière. Ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai, nous dit Éphésiens 5:9. Alors, conscient de ce privilège d'être passé de l'obscurité à la lumière, nous n'avons pas d'autre option que de proclamer cette œuvre merveilleuse. Si nous oublions ce but, nous sommes une église déséquilibrée, qui sait qui elle est, qui est ferme sur son identité, mais qui ne sait pas à quoi elle sert. En quelque sorte, une église qui marche sur une jambe, tournée sur elle-même, sur ses problèmes, plutôt que tournée vers l'annonce du message de réconciliation qui permettrait à d'autres qui sont empêtrés dans les ténèbres de pouvoir connaître et goûter à la lumière. Je crois que quand une église se met en marche pour répondre à sa raison d'être, à son but, à savoir de proclamer des œuvres merveilleuses de Dieu, alors c'est une église puissante, utile, rayonnante, j'oserais dire heureuse. Et pour la gloire de son Dieu. Et non plus pour servir ses propres intérêts égoïstes. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te bénissons parce que nous savons qui nous sommes si nous t'appartenons. De manière totalement imméritée, tu nous offres par Jésus-Christ le pouvoir d'être une race choisie, des prêtres du roi, une nation sainte, un peuple qui t'appartient. Merci de ce que nous avons obtenu miséricorde de ta part. Merci parce que tu as voulu dans ton amour que des enfants, tes enfants ne restent pas seuls, mais profitent de tes grâces au travers d'une relation communautaire. Pourtant, nous confessons devant toi que nous avons trop souvent absorbé l'esprit individualiste de ce monde. Nous avons négligé ou oublié que nous sommes un peuple appelé collectivement à te servir, à proclamer la majesté de ta personne et de tes œuvres. Purifie nos pensées, arrache de nos cœurs le mensonge qui consiste à croire que nous pourrions avoir une vie chrétienne satisfaisante et à ta gloire en faisant l'impasse sur nos frères et sœurs. Nous t'en supplions, aide-nous à saisir la puissance et la beauté d'une église active qui proclame haut tes œuvres magnifiques. Toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière, nous te demandons s'il se trouve dans cette salle une personne qui n'a pas encore accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui est perdue dans l'obscurité du péché. Nous te prions que tu puisses te révéler à lui et à elle dans ton amour, ouvrir ses yeux, afin que dans la foi et dans la repentance, elle puisse saisir ton salut et ta lumière. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.